premier sur l'info, l'info locale.
Et il est 7h30, place à l'actualité avec les titres de votre journal local présenté par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Le port de pêche de Papeete prépare sa métamorphose en stock de première urgence humanitaire au Fénois. Ses moyens sont destinés à apporter une réponse humanitaire d'urgence dans le Pacifique Sud. Et puis, en justice, la chambre de l'instruction maintient la saisie pénale du comte d'Oscar Temaru.
Sébastien Lecornu, élu local enraciné, veut tendre la main aux élus locaux d'outre-mer.
Hier avait lieu la passation de pouvoir entre Annick Girardin et Sébastien Lecornu, le nouveau ministre des Outre-mer. Le ministre a exprimé son attachement au territoire ultramarin. Je suis un des vôtres, je comprends vos difficultés, a expliqué Sébastien Lecornu. Parmi ses priorités, le nouveau ministre a d'abord cité la crise sanitaire en Guyane et à Mayotte où le virus circule toujours. Sébastien Lecornu a aussi cité la promesse de transition écologique et qui est un objectif pour chacun des territoires d'outre-mer. Le nouveau ministre a aussi brièvement évoqué les questions institutionnelles en Nouvelle-Calédonie, en donnant notamment l'exemple de la Nouvelle-Calédonie qui va en octobre se prononcer une seconde fois lors d'un référendum d'autodétermination concernant sa légitimité au ministère des Outre-mer qui, lui, n'affiche pas d'origine ultramarine. Sébastien Lecornu se défend. Ce n'est pas une affaire de carte d'identité, c'est une affaire de cœur et du cœur, j'en ai.
Le port de pêche prépare sa métamorphose.
Le ministre en charge de l'économie bleue, Tevaro Fritsch, le ministre de l'équipement, René Temeharo, et le directeur de TNAD, Rémi Grouzel, ont participé à une réunion hier au port de pêche. Une réunion destinée à présenter aux professionnels le projet de réaménagement du port de pêche. Il reste des études à mener et il faudra construire tout en maintenant l'exploitation. Tout cela devrait prendre au moins 6 ans. Écoutez justement le directeur des ressources marines, Cédric Ponsonnet.
Le premier problème qu'on a, c'est déjà que en fait, les fonctions n'ont pas été optimisées. On a par exemple un quai qui sert à la fois pour ravitailler et pour débarquer, ce qui pose des problèmes de croisement de bateaux. On a aussi un problème de périmètre, c'est-à-dire qu'on est tout autour, on a peu de possibilités en fait d'extension. Et le dernier problème, c'est qu'en fait, on doit réaménager un port qui fonctionne. C'est-à-dire que plutôt que de construire quelque chose sur un endroit tout neuf, là, on va devoir faire des travaux alors que les gens vont continuer leur activité. Donc en fait, c'est beaucoup de contraintes qui font que le réaménagement a pris beaucoup de temps à aboutir à un scénario consensuel.
Aujourd'hui, le port de pêche n'est pas optimisé en termes de fonctionnement, d'où la nécessité d'un réaménagement profond et d'une concertation. Face aux nombreuses questions posées par certains professionnels présents, le vice-président Tevaro Fritsch a justement rappelé que le rôle du pays est de doter la filière d'infrastructures.
On travaille avec les professionnels, mais il est important que ce soit le privé qui soit porteur des projets. Le pays vient accompagner, aménage, fait les bâtiments éventuellement, mais en réponse à des projets économiquement viables. C'est ça qui est important. C'est vrai que le port a été construit. Le port de pêche, petit bout par petit bout, tout doucement, et les utilisateurs ont dû s'adapter finalement à des bâtiments qui ont préexisté. Le fait d'avoir une nouvelle répartition fonctionnelle de ce port va certainement changer aussi la façon du coup de fonctionner de ces entreprises. C'est le message que je leur ai adressé. Il faut aussi, c'est pour ça que je tenais à les voir tous là, on les a vus séparément. Il faut aussi que chacun adapte sa façon de travailler.
Parmi les nouveautés du projet, de nombreux ateliers mécaniques dans le hangar côté Papeete, l'utilisation de la zone sud qui sera remblayée pour faire place à un quai spécifique et une zone dédiée à la vente directe qui permettra aux particuliers de ne pas rentrer dans l'enceinte du port pour faire leurs achats. Le directeur des ressources marines table sur 2 ans pour les études restant à mener et 4 à 5 ans de travaux ensuite. Ainsi, le nouveau port de pêche ne sera pas opérationnel avant au moins 6 années.
Un stock de première urgence humanitaire au Fénois.
Le haut-commissaire Dominique Sorin était à Sainte-Amélie hier pour la présentation des matériels de première urgence du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Karl Lies, président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge qui en assure la gestion courante, était également présent. La Polynésie française accueille ainsi l'un des 4 sites du CDCS. D'après l'Île-de-France, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie, ces moyens sont destinés à porter une réponse humanitaire d'urgence dans le Pacifique Sud. Écoutez le haut-commissaire.
Ça a été donc voulu par le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, financé par l'État, pour prépositionner du matériel. Donc c'est destiné au territoire français, ça peut être utilisé si on avait un cyclone ici ou en Polynésie, mais c'est surtout utilisé aussi dans les territoires des pays voisins. Partout c'est géré par la Croix-Rouge, hein. Donc c'est vraiment un outil très important dans le cadre ici des accords régionaux, parce qu'on pourra intervenir dans toute la zone, dans le cadre des accords que nous avons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle les accords France.
Il s'agit de matériel d'urgence non périssable, tentes, bâches, kits de cuisine, kits d'outils ainsi qu'une station mobile de potabilisation d'eau de mer. Ce matériel d'urgence représente une valeur totale de 36 millions de francs pacifiques.
La chambre de l'instruction maintient la saisie pénale du comte d'Oscar Temaru.
Le 23 juin dernier, Oscar Temaru et son conseil, maître Claude Gérard, avaient contesté la saisie des 11,5 millions de francs sur le compte bancaire du maire de Fa devant la chambre de l'instruction du palais de justice de Papeete. Cette saisie était intervenue dans le cadre de l'enquête préliminaire sur la prise en charge par la commune de Fa des frais de défense d'Oscar Temaru dans l'affaire Radio Tefana. Le conseil du leader indépendantiste avait estimé que la mesure était injustifiée, vexatoire, voire même excessive. La décision était attendue hier matin et visiblement la chambre de l'instruction n'a pas tenu compte des moyens exposés par maître Gérard puisque le recours a été rejeté. Écoutez maître Gérard.
Pour moi c'est une très grande déception parce que je pense qu'il y avait tout à fait la place pour une mesure plus adaptée. Moi dans mon esprit je pensais que la chambre d'instruction ordonnerait la main levée de la saisie et ordonnerait en même temps qu'une instruction soit faite pour que M. Temaru soit entendu contradictoirement sur les reproches qui lui sont faits. C'était pour moi la voie normale que devait emprunter la justice.
Oscar Temaru, le leader indépendantiste, peut à présent se pourvoir en cassation, une procédure qui s'annonce longue et sans issue, selon Maître Gérard.
La fratrie des braqueurs à la barre.
Le procès de 6 individus poursuivis pour plusieurs vols commis avec des armes a débuté hier devant le tribunal correctionnel de Papeete. À la barre, 5 des 6 prévenus, dont les 3 frères Chen, leur père, ainsi que l'un de leurs amis, ont tenté de minimiser les faits. Le président du tribunal a rappelé que tous les prévenus avaient déjà été condamnés à plusieurs reprises pour des trafics d'ICE. Est telle que l'affaire Dubaquier, dans laquelle deux des frères Chen avaient été condamnés à la prison ferme. Le procès s'achèvera aujourd'hui avec les réquisitions du procureur de la République et les plaidoiries de la défense.
On parle sport et football. Marama Vairua et ses aiglons rechaussent les crampons.
Effectivement, c'est à présent officiel. Marama Vairua est de retour à Nice. Hier, il a pris part au premier entraînement post-confinement de l'équipe des U19 des aiglons en tant qu'adjoint de l'entraîneur Emercé Faé. Un retour presque à la maison pour l'ancien attaquant qui avait fait les beaux jours du club niçois durant 3 années. Après être passé par la fédération tahitienne de football en tant que directeur technique pour la présidence de l'AS Dragon, Marama Vairua va s'atteler à former la nouvelle génération du club niçois. Il sera aussi chargé d'animer les séances spéciales avec les attaquants du centre. Mon objectif, c'est de donner de la vie, de la joie et surtout l'amour du football, a confié Marama Vairua dans une vidéo publiée par l'OGC Nice. Maintenant, c'est boulot, a conclu Marama. Voilà, bien sûr, on lui souhaite bonne chance et bonne route pour son aventure niçoise dans le football français. En tout cas, voilà, s'achève ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.